Quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. C'est le 29 janvier 2026. On est jeudi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mathieu?
Oui.
Tout sourire.
Mais oui.
Ça va?
Ça va très bien. Elle-même?
Oui, oui, ça va bien. Il y aura François Larochelle, ancien diplomate canadien, qui, lui, va peut-être nous rabattre le caquet puisqu'il va nous parler de Trump, son désir pour le Groenland et son conseil de la paix. Chronique à ne pas manquer autour de 10h44. Nous sommes autour de... C'est assez précis, à 10h44, mais peut-être ce sera 10h45, qui sait. Dominique Tremblay sera avec nous pour sa chronique. Nick Parac Sport, pardon, j'en perds un peu la parole. Il va notamment nous parler de Philippe Nadeau, un champion qui remporte une première médaille sur le circuit de la Coupe du Monde en para-snowboard. C'est un planchiste de Terrebonne qui a 29 ans. Nous irons aussi du côté des cantons de l'Est, là où il neige en ce moment. Bonjour Monique Kirouac.
Oui, bonjour Hélène.
Alors, le paysage est beau?
Oui, c'est beau, mais on en a un peu marre, là. Je pense que les bancs de neige sont plus hauts que moi autour de la maison, donc...
Oui, mais...
5 pieds 3.
C'est l'hiver.
Exact.
Mon psy est une IA. La neige ne vient pas de l'intelligence artificielle encore, là.
Non, pas encore. Il n'y a pas de manipulation dans ce cas-ci. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de communiquer, en fait, de l'information que j'avais lu déjà dans Québec Science en septembre dernier, mais je me suis dit, c'est peut-être pas très pertinent. J'étais pas sûre. Mais j'ai reçu la nouvelle édition de la revue Epsilon et on traite du même sujet. La question, c'est ChatGPT est-il un bon psy? Alors, je me suis dit, bon, après mes réflexions, je pense que je devrais en parler à nos auditrices et auditeurs.
Oui.
Parce que ces agents conversationnels servent d'exutoire. Les services sont très longs à obtenir quand on veut voir un psychiatre. Et l'usage s'intensifie, Hélène, c'est vraiment exponentiel. Mais y a-t-il des risques? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a des espoirs pour que ce soit mieux encadré? C'est ce que nous révèle Marine Cognoux dans la revue Québec Science. Et j'aurai des petits passages qui viendront de la revue Epsilon aussi.
C'est un sujet absolument pertinent d'actualité. On en parle partout de ces temps-ci. J'ai vu deux pièces qui abordaient le sujet. Boîte
Tout
noire chez Duceppe et Changer de vie à la licorne. Et oui, ça fait réfléchir. Il faut en parler. Il faut se pencher sur le sujet. C'est important. Sans ça, on va se faire avaler par la machine.
Oui.
Merci, Monique. Yvan, on revient les pieds sur terre pour parler des arénas qui ne sont pas tous accessibles universellement, malheureusement.
Oui, bien, la semaine dernière, j'ai parlé de patinage à l'extérieur, mais il y a plusieurs personnes qui préfèrent le confort de patiner à l'intérieur. Et les arénas, j'ai deux articles cette semaine à propos de la condition des arénas à accueillir, premièrement, les personnes qui sont à mobilité réduite. C'est des conditions très variables selon les arénas. Et les gens qui ne font pas partie d'équipes sportives, d'équipes de hockey, d'équipes de patinage artistique, les possibilités sont aussi assez restreintes, on verra. Heureusement, on a un hiver fantastique pour aller à l'extérieur si on s'habille bien. Mais je pense que c'est important de regarder les conditions dans les arénas pour permettre aux gens de faire du sport et d'éviter les urgences.
Oui. Merci beaucoup, Yvan. On vous retrouve un peu plus tard au cours de cette émission. Au quotidien, à Canal M, la voix de l'inclusion. Et on commence avec une nouveauté d'un vieux de la vieille qui faisait partie du groupe Zébulon. Voici Yves Marchand. On serait-tu bien?
On serait-tu bien en dans Pandore, ta cabane, si demain matin on enterrait nos chicanes de sans dessin. Il y en aurait plein du monde avec le sourire, main dans la main, se souhaitant Happy New Year en plein mois de juin. On serait humain. Une plage comme au début, quand on savait pas notre âge, notre nom non plus. Les millions d'enfants d'une galaxie vivant heureux, jouant à un jeu où l'on se partage un gros ballon bleu. On serait-tu belle?
J'aime bien quand les musiciens prennent leur temps. C'était Yves Marchand, On serait-tu bien?
Même chose pour moi. Et c'est tiré de son nouvel album intitulé Tellement naturel. Allons-y donc avec les unes. La une de la presse Plus, hôpitaux et CHSLD, virage VG. C'est une sauce aux lentilles et c'est très bon, lance un patient. Des établissements de santé de plusieurs régions du Québec misent sur une végétalisation accrue de leur menu. D'abord pour des considérations environnementales, bien que cela entraîne aussi des économies. C'est un dossier de Valérie Simard. Dans certains établissements de santé du Québec, les plats végétariens ne sont plus réservés aux adeptes de ce régime. S'appuyant sur les recommandations de la commission Eat Lancet et sur celles du Guide alimentaire canadien, des centres de santé de plusieurs régions du Québec végétalisent leur menu et s'appelaient. Ça plaît à plusieurs personnes et d'autres sont un peu plus rébarbatives, mais on s'adapte, comme on dit. À la une de la presse Plus toujours, on parle de sport en route vers Milan-Cortina. Alexandre Pratt, Michael Kingsbury et Marielle Thompson, des porte-drapeaux inspirants. Michael Kingsbury et Marielle Thompson ont fait leur début sur le circuit international presque en même temps. Tous les deux, en ski acrobatique, ils ont fréquenté le même centre d'entraînement à Whistler, les mêmes montagnes, ils ont participé aux mêmes Jeux olympiques et chacun y a remporté des médailles d'or et d'argent. C'est vraiment spécial tout ce que nous avons en commun, convient le roi des bosses. Le 6 février, ils seront de nouveau réunis, cette fois en tête du cortège des athlètes canadiens à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina. À titre de porte-drapeau, de faire ça avec elle, je trouve que c'est beau, s'emballe le skieur québécois. Et puis, on parle aussi en une de la presse Plus de Maude Cyr Deschênes, l'évangéline idéale. Elle incarne l'héroïne d'un spectacle musical qui raconte la déportation des Acadiens. La journaliste Josée Lapointe a rencontré Maude Cyr Deschênes et elle a assisté aussi à une générale, je crois bien, de répétition. Le spectacle prend son envol très bientôt à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts du 5 au 8 février, puis en tournée à Québec, Trois-Rivières et Moncton l'été prochain du 30 juillet au 9 août. À la une du Journal de Montréal, très troublant, des lettres violentes envoyées aux présentatrices météo, harcelées et menacées. On a des témoignages. 10 présentatrices météo parmi les plus connues du Québec sont victimes de harcèlement et de menaces de mort depuis 7 ans. Elles reçoivent des lettres qui semblent provenir du même individu que la police n'a pas encore été capable d'arrêter. « Tu joues avec le feu, connasse. Je vais te régler ton compte dans pas grand temps. » Et je cite « Estite pute ». Tels étaient les premiers mots d'une lettre reçue par la présentatrice Émilie Brassard en 2025. Ce n'était pas la première fois que celle qu'on peut voir régulièrement à TVA et LCN recevait du courrier menaçant. En 2018, des lettres similaires lui avaient aussi été adressées. À la suggestion de son employeur, elle a alors déposé une plainte au service de police de la Ville de Montréal. Au moins 9 autres présentatrices sont aussi dans la mire du harceleur. Leurs témoignages seront diffusés à l'émission JE ce soir à 19h30 sur les ondes de TVA. Au moins 5 femmes se sont adressées à la police entre 2018 et 2025. Plusieurs déplorent pourtant avoir été informées par les enquêteurs que leur cas était unique et qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Dès la première lettre, je suis allée à la police. Après, je n'ai jamais eu de suivi, se souvient aussi la journaliste Christine Manzo. Ce n'est qu'après que notre bureau d'enquête a commencé à poser des questions au SPVM que les présentatrices météo ont été rappelées toutes le même jour, à la mi-janvier. À la une du Devoir, des Snowbirds mettent le cap sur l'Espagne. C'est une série de 4 reportages. Hier, il y en avait un signé par Annabelle Caillou. Aujourd'hui, c'est Romain Chauvet qui a rencontré Pauline Gervais, qui est maintenant en Espagne et qui est très bien. Elle qui a passé beaucoup d'hivers en Floride. Opération Charme de Séoul à Ottawa. Une délégation sud-coréenne est en visite au pays pour signer des ententes industrielles et tenter de décrocher un contrat pour fournir 12 sous-marins à l'armée canadienne. C'est Mathieu Carbas, dis-je bien, qui signe l'article.
Je vais me coucher tôt. Je manque du sommeil. Je ferme la TV. C'est un la junk anyway. Je vais lire un livre. Mais perdant, c'est des accords. J'arrête de
Je suis pas une femme à marier, c'est une chanson de des Hey Babies.
Jeanne Corriveau signe un texte dans Le Devoir qui a attiré votre attention, Mathieu. Pas Mathieu, mais plutôt Yvan.
Oui, Mathieu, c'est l'autre.
Oui, peut-être que Mathieu va lire le texte après pour parce que ça l'a intéressé, là. Mais allez-y.
Oui, ça a été publié le 24 janvier, donc il y a quelques jours seulement. Et ça dit que il y a plusieurs arénas montréalais qui sont accessibles universellement. Et certains d'entre eux mettent même en location des équipements pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se lancer sur la glace. Mais le niveau d'accessibilité n'est pas égal partout. Et là, il y a Maxime Gagnon, qui est président-directeur général de l'Atergo. C'est une personne qui est très impliquée dans le milieu. Il a entraîné beaucoup de joueurs de para-hockey dans le passé. Il dit, quand on parle d'accessibilité universelle dans nos arénas, ça fait dur. Quand je regarde les arénas en Ontario, je me dis qu'on est mûr pour un renouvellement du parc. Je pense qu'on peut se fier à son point de vue. Il a beaucoup fréquenté d'arénas montréalais au cours des 15 dernières années en raison de son implication dans la discipline du para-hockey. Il dit du grand bien de l'aréna Howie Morin dans Villeray-Saint-Michel par extension, qui a ouvert ses portes au para-hockey et à la soixantaine de membres qui y pratiquent cette discipline et dispose de 9 heures de programmation chaque semaine. Mais il ne peut s'empêcher de souligner que cette aréna aurait tout de même besoin d'un peu de rafraîchissement, car il est devenu désuet avec le temps. Là, je fais une parenthèse. N'est-ce pas un commentaire qu'on fait sur plusieurs infrastructures au Québec, que ce soit des écoles, que ce soit des rues, etc.? Fin de ma parenthèse. La Ville de Montréal a entrepris, il y a 15 ans, un vaste et coûteux programme de rénovation de ces arénas, compte tenu de l'obligation de remplacer les systèmes de réfrigération au fréon par des systèmes à l'ammoniac. Elle en a profité pour moderniser certains d'entre eux en les rendant accessibles universellement. Sauf que l'accès pour les personnes handicapées est à géométrie variable. Dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, les espaces communs, c'est-à-dire les estrades, les restaurants, tout ça, sont accessibles aux personnes handicapées qui peuvent aussi se rendre dans les gradins par un ascenseur à l'aréna Saint-Donat et par des rampes d'accès aux arénas Francis Bouillon et Clément Jeté, souligne l'arrondissement. L'aréna Francis Bouillon accueille par ailleurs des matchs de hockey de joueurs aveugles et malvoyants. Dans Antique Quartierville, les deux arénas sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, tant les espaces communs que la patinoire. À l'aréna antique, l'accès au gradin n'est toutefois pas possible, mais un espace a été aménagé près de la patinoire. À l'aréna Marcelin Wilson, l'accès à la patinoire est possible, mais doit se faire par l'entrée de la surfaceuse, car les autres seuils de porte ne sont pas abaissés. Dans les arénas de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, les espaces communs, les gradins sont accessibles, mais les glaces ne le sont pas. Ainsi, les fauteuils roulants n'y sont pas autorisés, à moins qu'ils ne soient conçus spécifiquement à cet effet, souligne l'arrondissement. Dans Montréal-Nord, les aires communes sont accessibles, mais ni les fauteuils ni les poussettes ne peuvent accéder aux patinoires. Donc, certains arrondissements offrent dans certains arrondissements, on trouve le prêt de luge spécialement conçu pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d'utiliser les patinoires. C'est le cas de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui propose gratuitement cet équipement depuis tout récemment, c'est le printemps 2025. Malheureusement, malgré la promotion, nous n'avons pas eu d'utilisation à présent, indique l'arrondissement. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de faire connaître cette possibilité-là. Nous allons continuer de promouvoir ce service auprès des organismes et de la clientèle en 2026. De son côté, Rosemont, la petite patrie, prête gratuitement des équipements comme des fauteuils tout-terrain et des luges adaptés aux personnes ayant des limitations à la patinoire du parc du Père Marquette. Pratiquer un loisir comporte bien des embûches pour les personnes handicapées, sans compter les conditions hivernales qui rendent les déplacements difficiles, selon Maxime Gagnon. Pour la personne à mobilité réduite, tu as beau tout lui rendre facile, si tu lui mets le patin libre à 8h30 le matin, il n'y a pas de transport adapté. Il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est jamais le fun et facile. Selon lui, les autorités ont tout avantage à rendre leurs arénas accessibles universellement au moyen de seuils abaissés, de portes plus larges pour les patinoires et de rampes dans les gradins, parce que les enfants, les familles et les personnes âgées peuvent aussi en bénéficier. Alors, ça fait l'état de la situation pour ce qui est des personnes à mobilité réduite. Dans le même article, on fait une référence à un autre article qui a été écrit encore par Jeanne Corriveau, qui parle des arénas montréalais qui sont difficilement accessibles aux patineurs amateurs. Et elle nous dit que les arénas de Montréal sont-ils vraiment accessibles au grand public? Une part importante des heures de glace est accordée aux activités de hockey et aux clubs de patinage artistique. Mais plusieurs voix s'élèvent pour demander que la ville diversifie son offre afin de démocratiser ses installations et d'inciter davantage de Montréalais à bouger. Alors, elle donne comme exemple, jeudi après-midi, 16h, à l'Aréna Mont-Royal, les patineurs et patineuses s'entrecroisent sur la glace, effectuant des figures gracieuses et des arabesques. La période de patinage artistique libre est la seule dans la semaine qui leur permet de s'entraîner gratuitement. Alors, il y a Martine Venn, qui est membre du club Les Lames Argentées, qui regroupe des patineurs adultes, qui dit qu'elle prend congé du travail pour venir ici le jeudi après-midi à 16h. Car il est difficile pour les adultes de pratiquer leur sport préféré sans contrainte. Tous les arénas de la ville proposent des périodes de patinage libre pour le grand public. Mais les figures de patinage artistique y sont interdites pour des raisons de sécurité. Les clubs de patinage proposent des heures d'entraînement, mais elles sont réservées aux membres et elles sont payantes, soutiennent les patineuses croisées à l'aréna. L'aréna Mont-Royal, dans le plateau Mont-Royal, est le seul à Montréal à proposer une plage horaire pour le patinage artistique libre. Cette période a été instaurée en 2024. Et chaque semaine, une trentaine de patineurs et patineuses s'y donnent rendez-vous. C'est comme la seule place où on peut patiner librement. Des fois, il y a presque trop de monde, soutient une dame qui s'appelle Hayley Alcock, qui tente depuis 2 ans de convaincre l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, d'offrir une période de patinage artistique libre. En 2023, l'organisme Patin Libre, qui est un OBNL spécialisé dans le patinage contemporain, qui milite pour la démocratisation de ce sport, avait mandaté la consultante en égalité de genre et inclusion sociale, Joëlle Matt, afin de voir qui fréquente les installations. La chercheuse s'est penchée sur le taux de fréquentation à l'aréna Francis Bouillon et de la patinoire extérieure du parc La Lancette dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'un des constats de son analyse, réalisé sur une période de 2 semaines en 2023, montre que les utilisateurs étaient en grande majorité des hommes blancs de 15 à 64 ans, généralement sans handicap et de niveau avancé en patinage. Ainsi, les usagers sont peu représentatifs de la démographie du quartier, soulignait l'étude. La chercheuse avait aussi observé qu'un peu plus de la moitié, 55% des créneaux horaires de l'aréna étaient réservés au hockey, une proportion qui grimpait à 70% en période de tournoi, ce qui est pas mal la période présentement. À l'inverse, les périodes accessibles aux citoyens, comme les plages horaires du patinage libre, représentaient à peine 17% des créneaux horaires de l'aréna. Pourtant, note l'autrice, la clientèle de cette activité est beaucoup plus diversifiée. La fréquentation est presque paritaire. Elle parle de 52% d'hommes et 48% de femmes. Et les minorités visibles sont mieux représentées, tout comme les usagers débutants et les personnes âgées. L'étude ne s'attarde qu'à deux installations de la ville, mais les constats reflètent la situation vécue dans l'ensemble des arénas et des patinoires à l'échelle de Montréal, estime Alexandre Hamel, qui est directeur artistique de Patins Libres. Il dit, n'étant pas surveillés, les patinoires extérieures dans les parcs se trouvent à être toujours ouvertes au grand public et gratuites, mais ces patinoires fondent quand il ne fait pas beau. Avant, elles étaient accessibles 40 jours par hiver. Aujourd'hui, on est davantage autour de 20 jours. Quant aux patinoires réfrigérées, le dernier budget de la ville ne prévoit pas de nouvelles constructions. Pour leur part, les patinoires des arénas, qui représentent des dépenses élevées pour les arrondissements, favorisent les clubs organisés pour les temps de glace au meilleur moment de la journée. Et les clubs bénéficient dans certains cas de tarifs préférentiels ou de la gratuité, souligne-t-il. Selon M. Hamel, la ville devrait privilégier des horaires plus équitables et plus grands et un plus grand accès gratuit pour le public. La conseillère municipale dans le plateau Mont-Royal, Maëva Villain, juge important d'offrir plus de plages horaires à une clientèle diversifiée. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi.
Petite gorgée d'eau, peut-être?
Une gorgée, oui.
Ouais. Ça va mieux?
Merci pour l'intermède musical. Oui, oui, c'est très bon. Donc, je parlais de Mme Maëva Villain. Elle dit que c'est une approche de santé publique. Dans le sport, ce qui est important, ce n'est pas que les gens qui font déjà du sport en fassent encore plus, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui fasse un peu de sport. L'arrondissement a même instauré des soirées thématiques mensuelles sur différents thèmes, comme l'Halloween ou Noël, et ces soirées sont très courues, attirant en moyenne autour de 280 personnes par événement, souligne l'élu. Et j'arrête ici, et on comprend l'esprit d'ouverture qu'on devrait avoir davantage auprès des arénas pour l'ensemble de la population.
Merci beaucoup, Yvan. C'est un texte que vous avez trouvé dans Le Devoir du 24 janvier 2026, signé Jeanne Corriveau. On poursuit en musique et avec la chronique de Monique dans la prochaine demi-heure.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ.
Bruno Mars et sa chanson I Just Might.
Oui, premier extrait d'un album annoncé pour le 27 février. La chronique avec Monique Kirouac s'intitule, en fait, vous avez choisi de lire un texte qui paraît en septembre 2025, mais qui est absolument pertinent toujours, texte de Marine Cornu, Monique.
Oui, exactement, publié dans la revue Québec Science. Je commencerai par un petit passage, par ailleurs, d'un article publié dans la revue Epsilon, ce magazine scientifique d'actualité, l'édition de février 2026, qui commence ainsi « Une écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». En septembre dernier, OpenAI révélait que 1,9% des messages sur ChatGPT étaient liés à la compagnie ou aux questions socio-émotionnelles. Ça ne semble pas beaucoup, sauf qu'il y a 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ce chatbot ou encore de ce robot ou cet agent conversationnel. C'est quand même pas banal comme quantité, n'est-ce pas?
Ça, c'est beaucoup. 800 millions, oui. Vous dites?
J'ai dit 800 millions.
C'est oui, impressionnant.
Impressionnant. Et ça, c'est des données du printemps, en fait. La recherche a été faite et préparée au printemps dernier. Donc, peut-être que déjà, il y a une surenchère. Marine Cornu nourrit, elle, une grande méfiance envers l'intelligence artificielle, qu'on appellera l'IA, et même une pointe de mépris, car elle sait bien que les grands modèles de langage, en anglais c'est Large Language Models ou LLM, ne sont pas vraiment intelligents, qu'ils se contentent d'assembler des mots les uns après les autres en suivant des règles statistiques selon les mots contenus dans la question et non pas en raisonnant ou en décryptant le monde. Et pourtant, dans un moment difficile, elle avoue de sa vie qu'elle doit admettre donc qu'elle a trouvé en ChatGPT une oreille attentive, des conseils plutôt judicieux, un échange constructif qui l'a aidé à cheminer. Lui écrire, c'est un peu comme écrire un journal intime animé à un confident à qui on peut tout avouer et qui a toujours quelque chose à répondre. Ce qui n'était qu'un test au départ, en vue de l'écriture donc de cet article, l'a étonnamment convaincu d'une certaine, en tout cas, utilité des robots comme soutien émotionnel. Elle était très sceptique, elle l'est nettement moins actuellement. Je tourne la page, excusez-moi. Alors, il est difficile de faire le décompte, Hélène, des comptes, des outils commerciaux disponibles, tant ces nouveaux compagnons foisonnent. L'éventail est large, certains outils relèvent du bien-être, d'autres s'inspirent des thérapies cognitivo-comportementales, la TCC, et quelques-uns prétendent reproduire certaines dimensions d'une interaction thérapeutique. Selon une analyse parue en avril dernier dans la Harvard Business Review, la thérapie et la recherche de compagnie arrivent désormais en tête des usages de l'IA devant la génération d'idées et la rédaction de textes. Ainsi, les algorithmes sont devenus le réceptacle des peines et des questionnements intimes de millions de personnes. Les besoins, on le sait, en santé mentale de la population sont immenses. Et les ressources ne suivent pas. Au Canada, 26% des gens déclarent avoir une santé mentale mauvaise ou passable, ce qui est trois fois plus élevé qu'avant la pandémie, selon l'Association canadienne pour la santé mentale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la dépression sera la première cause d'invalidité dans le monde en 2030. Ça, c'est pas très loin, là. Et une personne sur deux souffrira d'un trouble mental à un moment ou un autre de sa vie, selon une vaste étude publiée en 2023, menée sur 150 000 adultes de 29 pays. Face à l'attente souvent interminable pour obtenir un soutien psychologique, les confidents virtuels sont vus par la communauté médicale comme des béquilles au potentiel non négligeable. Quand il y a 10 mois d'attente pour une psychothérapie, on ne peut pas en vouloir aux gens de se tourner vers ChatGPT qui offre l'équivalent d'un coach tout de suite et pour 20 $ par mois. D'autant que les psychobots, alors, semblent faire le travail.
Selon les psychobots.
Une étude, Oui. Les chatbots, les psychobots. Oui. J'ai pas trouvé de traduction pour psychobots. Alors, selon une étude publiée en 2025 qui a placé plus de 800 personnes face à des scénarios de thérapie de couple, les gens faisaient rarement la différence entre des réponses écrites par ChatGPT et des réponses écrites par des thérapeutes en chair et en os. En fait, les réponses de ChatGPT étaient même mieux notées, jugées, plus alignées sur les principes clés de la psychothérapie. D'ailleurs, selon les premières études qui émergent sur le sujet, les interactions avec une machine permettent bel et bien de réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Les thérapies structurées comme la TCC se prêtent particulièrement bien au texto. Elles consistent à encourager les gens à reformuler certaines pensées négatives, à sortir d'un schéma de rumination. Des conseils qu'un LLM, je vous rappelle, c'est les grands modèles de langage, bien entraînés, parvient à donner efficacement. Il y a quelques mois, il y a un premier essai clinique qui a été mené par une équipe de psychologues du Dartmouth College qui a évalué l'efficacité d'une IA générative auprès de 110 adultes présentant des signes de dépression majeure, de troubles anxieux généralisés ou à risque de troubles de l'alimentation. Pendant 4 semaines, une partie des cobayes ont été placés sur liste d'attente, comme dans la vraie vie, alors que les autres recevaient les conseils de Terabot, un chatbot, donc un agent conversationnel expérimental, développé à cette occasion par l'équipe de psychologues. Et j'insiste, c'est très important cette nuance, et supervisé par elle. On nous dit, nous l'avons entraîné à l'aide d'approches fondées sur les données probantes telles que la TCC. C'est ce que nous dit Michael Hines, qui est chercheur en psychiatrie et premier signataire de l'étude qui est parue dans le New England Journal of Medicine, IA. À raison de 6 heures d'interaction en moyenne en un mois, Terabot a permis de réduire de moitié les symptômes dépressifs. Chez les personnes souffrant d'anxiété, on a noté une réduction des symptômes de 31%, des résultats comparables à ce qu'on obtiendrait avec une thérapie cognitive de référence selon l'équipe. Michael Hines précise aussi que le chatbot n'est pas accessible en ce moment au public et qu'il n'est de toute façon pas prêt à exercer de façon autonome. Mais j'imagine qu'ils y travaillent ardemment, Hélène. Par ailleurs, il faut donc souligner que les résultats sont encourageants, mais ils ne peuvent être extrapolés aux centaines d'applications disponibles sur les plateformes mobiles. Et c'est là que le bât blesse. L'écrasante majorité des psychobots accessibles sur le marché actuellement sont développés par des entreprises privées et non où les considérations éthiques et la compétence clinique est à peu près absente. Les validations sérieuses sont rares et très partielles. La plupart de ces outils ont en commun un manque de transparence sur leur fonctionnement. Les données d'entraînement, la supervision clinique des contenus et les mécanismes de contrôle des réponses ne sont souvent pas communiqués, ce qui rend difficile leur évaluation éthique ou scientifique. Alors, il faut être bien prudent, n'est-ce pas? Une vraie thérapie, faut-il le rappeler, est toujours personnalisée selon le contexte, le passé, le bagage culturel des patients et patientes. Le non-verbal compte aussi énormément. De plus, il faut parfois un peu de friction pour avancer dans la thérapie, se faire défier. La recherche dit que le contenu de la psychothérapie est au moins aussi important que le relationnel. Or, l'IA n'offre pas la confiance, l'empathie, l'écoute. Elle n'offre qu'un simulacre. Et pour nombre de spécialistes, c'est cette tromperie qui est la plus dangereuse. On s'ouvre, on se met à nu, il y a un risque de manipulation de la vulnérabilité émotionnelle de l'individu. Je terminerai en vous disant que donc il faut être attentif à ce qui se passe en nous quand vous utilisez ce type d'outil. Si vous commencez à vous servir, à vous sentir attaché, à attendre ses réponses ou à lui confier des choses que vous ne partagez avec personne d'autre, c'est peut-être un signal d'alarme, car rien ne vaut l'écoute et le soin d'une intelligence humaine.
Tout à fait.
Je vous inviterai peut-être, Hélène, aussi, je ne sais pas si vous avez, peut-être, vous étiez en onde, donc vous n'avez pas pu écouter, l'entrevue que le député Craig Kelly, qui est l'époux de Marois Risky,
oui.
a donnée hier.
Je l'ai réécouté en rattrapage.
Vous l'avez, n'est-ce pas, un beau témoignage de démarche peut-être minimale en tout cas à suivre lorsqu'on est en détresse psychologique, ce qui a été son cas.
Oui, je pensais que vous alliez continuer. Je suis tout à fait d'accord, lui qui s'est livré là, à Patrick Masbourian, parlant donc de cette détresse, de ces épisodes dépressifs là, qui remontent quand même assez loin et qui parlait des symptômes, la grande fatigue qui est un signe là, que les choses commencent à dérailler. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il a parlé de séances avec un psy
Non, mais il a surtout parlé de feu rouge ou de feu orange.
Oui.
Une petite bière, une deuxième petite bière, une troisième petite bière pour se détendre parce qu'il a des grands problèmes d'anxiété, si j'ai bien compris aussi, que c'était pas une solution. Mais l'écriture, par exemple, peut aider la personne et bien sûr se confier à un humain.
Oui, oui. Un humain, je pense que vous l'avez dit, hein, c'est le mot-clé, un humain devant soi qui est là pour nous écouter, qui est là pour nous aider. Et quand on veut de l'aide professionnelle, c'est un peu anxiogène d'attendre. Vous parliez de 10 mois parfois, là. Ça
oui.
peut être très long, alors on peut comprendre que certaines personnes se tournent vers les psychobots.
Oui, on peut le faire, mais je pense qu'il faut voir la limite.
Mm-hmm.
C'est ça
oui.
qui est délicat, là. Il y a une frontière, peut-être, à ne pas franchir. Alors, si les auditrices et auditeurs veulent entendre ce témoignage très sensible de M. Greg Kelly, on peut le réentendre sur audio. C'était à 8h14 hier matin.
Oui, on a le segment facilement trouvable là, de cette entrevue vraiment bouleversante. Et on lui souhaite le meilleur. Lui qui est le conjoint, là, de la politicienne, ben lui aussi, là, il est en politique. C'est Marois Risky, son épouse. Et il lui a rendu hommage aussi. Hein, il parlait de sa force à cette personne-là, là,
oui,
à cette femme-là.
Oui, sa présence était importante, même si le contexte était probablement amplifié par tout ce qu'il a, en fait, toute l'histoire
oui, oui.
autour de ses propos à elle.
Entrevue passionnante et texte passionnant. Et également, j'ai fait un test, là, j'ai écrit à ChatGPT, je ne suis pas abonnée, mais on peut avoir des réponses. J'ai le mal de vivre. Alors, ça commence avec « Je suis vraiment désolée que tu te sentes comme ça, merci ». Et ça se termine « Je suis là pour t'écouter sans te juger et on peut avancer à ton rythme, tu n'es pas obligée de porter ça seul. » Déjà là, ça réconforte.
Ben exactement. Comme je disais, il faut mesurer quand, si on devient dépendant, c'est peut-être là où il faut ralentir nos conversations.
Être attentif justement aux petites lumières là, qui clignotent
oui.
ou qui clignotent pas. Là. Il faut faire la part des choses finalement. Merci.
Exactement, parce qu'il faut se rappeler que c'est un agent conversationnel. C'est pas une personne.
Non, non, c'est ça, c'est une machine. Merci.
C'est une machine, oui.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent t'entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à la fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeurait. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages vont paraître courts le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. à celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Que l'on n'a pas su retenir.
Chanson du Père Brassens, ici interprétée par Benjamin Biolay, Les Passantes.
Merci. Les brèves maintenant avec Monique Kirouac et Yvan Deslauriers. Yvan, une éclipse lunaire totale bientôt visible au Québec.
Oui, bien en fait, c'est le 2-3 mars, là, donc c'est dans un mois, mais c'est quand même important. Ça survient quand le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent de manière à ce que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Et on peut observer ce phénomène-là à l'œil nu. Il y a pas de danger parce qu'on regarde pas le Soleil à ce moment-là, on regarde la Lune. Et le phénomène, le fait que ce soit orange, c'est que selon la NASA, les rayons du Soleil sont munis de composants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces composants bleus se propagent facilement à travers l'atmosphère terrestre en plein jour, ce qui fait qu'on a un ciel bleu. Cependant, lorsque des levées et couchers du soleil, les rayons du soleil traversent l'atmosphère en angle, ce qui fait en sorte que ces composantes orangées et rouges sont plutôt observables. Alors, lors d'une éclipse lunaire totale, les rayons du soleil ne sont pas bloqués par la Terre et traversent la partie épaisse de l'atmosphère, ce qui fait en sorte qu'ils paraissent orangés lorsqu'ils frappe la surface de la Lune, et c'est ça qui est reflété vers la Terre cette journée-là. Donc, on parle du 2 et 3 mars prochain, puis on va souhaiter qu'il n'y ait pas de nuages.
Oui, on retient ça, puis on écrit, ben pour le retenir, c'est mieux de l'écrire en quelque part.
Oui.
Merci, Yvan, puis peut-être que vous ferez un rappel également. Monique, parlez-nous de la scientifique de l'année de Radio-Canada.
Bien oui, alors Radio-Canada a décerné le 39e prix du scientifique de l'année à l'astrophysicienne Oriane Egal. Elle a coordonné la première analyse complète d'un astéroïde, de sa détection dans l'espace à sa chute dans l'atmosphère, jusqu'à la récupération et l'étude de ses fragments sur Terre. C'était seulement la 7e fois dans l'histoire de l'astronomie qu'un impact d'astéroïde était prédit avec succès avant qu'il ne se produisent. C'est aussi la première fois qu'on réussissait à étudier un astéroïde dans tous ses états, de l'espace au sol, en passant par l'atmosphère. Ces travaux ont nécessité, Hélène, la coordination de 97 scientifiques et de 100 citoyens de 22 pays. Les modèles mathématiques très précis que l'astrophysicienne a mis au point permettent de prédire quand et où les poussières de comètes entreront dans l'atmosphère terrestre. Ils ont été utilisés par les agences spatiales, dont la NASA, pour évaluer les risques d'impact avec les sondes spatiales ou la Station spatiale internationale. Alors, on la félicite. Elle est fort sympathique, d'ailleurs.
Oriane Egal, qui est conseillère scientifique au Planétarium de Montréal, qui a accordé une entrevue à l'émission de Sophie-André Blondin, hein, la semaine passée, le 25 janvier dernier, les années lumières. lumière. Ça aussi, c'est rattrapable sur audio. Yvan, maintenant, l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain offre des cours d'escrime.
En fait, c'est une séance d'initiation à l'escrime et c'est ouvert à tous. Et c'est après-demain, c'est samedi. L'escrime, c'est un sport d'opposition qui permet de développer la coordination, la concentration et l'agilité. Il y a trois armes qui sont utilisées, l'épée, le fleuret et le sabre, évidemment pas en même temps, mais l'épée, le fleuret et le sabre, qui diffèrent par leurs règles, ce qui permet à chacun d'y trouver son plaisir. Ça peut être fait autant de façon individuelle qu'en équipe. Alors, dans le cadre d'un événement caritatif, en partenariat avec Escrime Mont-Royal et McGill Fencing, la SAM invite à découvrir cette discipline lors d'une séance d'essai ouverte à tous le samedi 31 janvier à partir de 10 heures. L'accompagnateur n'est pas obligatoire. Les initiations ont lieu toutes les heures jusqu'à 16 heures, directement dans la salle d'armes d'escrime Mont-Royal sur la rue Prudhomme. Donc, on dit venir rencontrer certains membres de la SAM qui pratiquent régulièrement l'escrime et battre le fer lors de cette journée d'initiation ou quand il est chaud, enfin. Le matériel est fourni. Il vous suffit d'apporter une tenue de sport, des chaussures propres, une bouteille d'eau et votre bonne humeur. Et si vous avez des questions sur l'événement, vous pouvez contacter Escrime Mont-Royal. Entraîneur à commercial escrimemontroyal.com.
Oui, bien important de faire la différence entre cours et séances d'escrime. Et on rappelle que c'est le 31 janvier prochain. C'est offert par l'ASAM. Et Monique, si je ne le savais pas, si je n'étais pas au courant que ça ne se dit pas, mais je dirais que vous êtes une personne tellement articulée.
Merci beaucoup, Hélène. Mais peut-être que je le suis.
Oui, d'une autre façon.
Oui, c'est ça. Alors, l'adjectif articulé qualifie généralement les choses qui sont construites avec des articulations. On va penser à des poupées. Peut-être que je suis une poupée puis qu'on a remonté ce matin pour vous parler. Les lampes, les autobus, ou ce qui est prononcé distinctement. Hein, on peut parler d'un mot plus ou moins bien articulé. Alors, l'emploi d'articulé pour qualifier une personne qui a de la facilité à s'exprimer, ben, c'est un calque de l'anglais, encore une fois. On dira plutôt que cette personne s'exprime bien, qu'elle est éloquente ou qu'elle a une grande facilité d'expression.
Alors, un devoir, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai un petit devoir pour vous, Monique, si
oui.
Ça vous plaît, si ça vous inspire. J'aimerais que vous vous penchiez sur l'adverbe « excessivement », qui est excessivement mal utilisé. S'il vous plaît.
Oui, j'en prends bonne note, Hélène.
Et puis, je remarque qu'il nous reste du temps. Vous pourriez continuer avec votre nouvelle sur les tatouages.
Oui, alors, la question est, nos tatouages nous ressemblent-ils? Qu'en dites-vous?
Ben, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de tatouage.
Moi non plus. Yvan, vous en avez?
Non, pas du tout, mais j'ai été dans un atelier culinaire hier et le chef qui nous enseignait, il y en avait beaucoup.
Oui, sur les bras.
Alors,
partout.
Est-ce qu'il nous ressemble? Non, pas du tout. La preuve, une étude américaine mettant en présence 30 juges et 274 personnes tatouées a montré qu'ils ne permettaient même pas de deviner un trait de personnalité majeur. Un pistolet ne prédit pas la violence, ni une rose la sensibilité de son ou sa porteuse. Le seul indice qu'un tatouage peut à la limite donner concerne l'ouverture d'esprit de son ou sa propriétaire. Plus le dessin est original, voire loufoque, plus sa personnalité est ouverte. Mais là encore, les chercheurs insistent, la force de l'association reste modeste. Et pourtant, observe-t-il, on se fait quasi systématiquement une idée préconçue de la personne que l'on a en face en fonction de ses tatouages. Donc, évitez tout jugement, peut-être.
Merci beaucoup, Monique, et merci beaucoup, Yvan. Et je vous ai tatoué sur mon cœur.
Oh,
à bientôt.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est l'heure de la chronique Parasport et on trouve avec plaisir au bout du fil Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, merci. Vous?
Ouais, pas pire. Votre gentil technicien, quand il m'a téléphoné, il m'a demandé si je voulais bien parler de sport avec vous. Et très gentiment, acquiescer à sa demande.
Bon, et c'est pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs. Une semaine très occupée avec des compétitions un petit peu partout en Europe.
Oui, c'est ça. Tout d'abord, il y a les skieurs para-alpins se retrouvent à Méribel, en France, pour une étape de la Coupe du monde. Il y a d'ailleurs Alexis Guimond qui y participe. Depuis le début de la saison, Guimond s'est surtout illustré dans des courses de vitesse, soit en descente et en super slalom. Aujourd'hui, il y avait une course en slalom géant, donc définitivement beaucoup plus technique. A bien fait lors de la première manche du slalom géant. Il avait terminé en quatrième position, mais comme le slalom géant se sépare en deux différentes manches, il n'a pas réussi à terminer la deuxième manche, donc n'a pas pu être classé lors de cette étape de la Coupe du monde. Il va avoir la chance de se reprendre dans deux jours avec une autre compétition de slalom géant. C'est surtout dans les compétitions, cependant, de vitesse qu'il espère s'illustrer lors des Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui vont commencer là, dans peu moins de 40 jours et les Jeux olympiques approchent. Il y avait aussi l'équipe de parabiathlon qui était en Suisse dimanche. Il y a trois Canadiens qui ont remporté le globe d'argent qui souligne les belles performances des athlètes à la suite de plusieurs manches de la Coupe du monde. Alors, Mark Arends, Nathalie Wilkie et Derek Zaplonski ont chacun remporté leur globe d'argent pour terminer premier lors de la Coupe du monde. Arends, c'était la quatrième fois qui gagnait ce globe d'argent au cours des cinq dernières années. Et l'équipe canadienne, dans ça, va sûrement remporter plusieurs médailles lors des Jeux paralympiques. D'ailleurs, l'équipe canadienne paralympique vont nommer l'équipe des athlètes canadiens qui vont représenter leur pays en biathlon et en para-ski de fond. Et Lynn-Marie Bilodeau de Sherbrooke devrait être nommé sur l'équipe canadienne. Donc, c'est une très belle nouvelle pour elle. Ils vont être nommés demain lors d'une conférence de presse.
Les Jeux paralympiques qui auront lieu du 6 mars au 15 mars.
C'est cela.
Dominique, vous nous parlez maintenant de Philippe Nadeau et non Nadeau, comme je l'ai appelé tantôt. Philippe Nadeau qui remporte une première médaille sur le circuit de la Coupe du monde. C'est un planchiste.
Oui, c'est ça, en snowboard, en planche de neige. Dimanche, il était en Suisse pour une étape de la Coupe du monde. C'était sa première médaille. Ça fait pas longtemps qu'il fait du para-snowboard ou para-planchiste. Il a commencé l'année dernière. Il avait participé à ses premiers championnats du monde après seulement deux mois d'avoir commencé les compétitions dans cette discipline. Cependant, avant son accident, puisqu'il est un athlète avec une amputation en bas du genou sur une de ses jambes, il était un athlète de haut niveau en planche à neige. Donc, c'est seulement de se réhabituer de faire de la planche avec une prothèse. Ça prend quelques mois d'adaptation, mais c'est comme la bicyclette, ça se perd pas. Et on réussit par la suite à s'illustrer. Donc, première médaille pour Philippe Nadeau de Blainville, Québec. Et il devrait être lui aussi à Milan pour les disciplines de para-planche à neige et il sera à surveiller.
Merci. Et un autre à surveiller, c'est Vincent Boily. On en fait un portrait sur le site Internet de Radio-Canada.
Oui, Radio-Canada qui vont diffuser les Jeux paralympiques sur leur site Internet. Tous les sports devraient être accessibles sur Internet. Il va y avoir plusieurs aussi émissions qui vont être diffusées lors des Jeux paralympiques. Donc, il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle « Le rêve olympique ». Il présente plusieurs portraits d'athlètes, soit olympiques ou paralympiques. Vincent Boily, qui représente le Canada dans le para-hockey sur glace, on retrouve un portrait d'une 30 minutes sur Vincent Boily. Ça va être ses premiers Jeux paralympiques. Mais avant un grave accident de motoneige, il jouait au hockey et avait été repêché par l'Océanique de Rimouski lors de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, il était très bon joueur de hockey. Ça lui a pris un peu de temps à s'adapter pour pouvoir passer au para-hockey. Mais maintenant, il est un des meneurs de l'équipe canadienne. Il sera peut-être très intéressant de le voir jouer. Puis on espère que ça va être une finale entre le Canada et les États-Unis, comme ça arrive très souvent dans ce sport.
Dominique Tremblay, merci beaucoup.
Merci et je vous souhaite une bonne journée.
Vous aussi.
C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Dieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans.
Qui croyait qu'il tu l'aimais. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Oh, 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 oh.
On sent qu'il aime chanter du Jourdassin. C'est Étienne Copé. Ça va pas changer. Non, ça va changer le monde. On aimerait bien. Hein? C'est tiré de l'album Hommage à Jourdassin. Ça s'intitule Un album Hommage à Jourdassin. C'est son plus récent album qui est consacré aux chansons de Jourdassin. Et Étienne Copé est en spectacle ce soir au Club Soda, si ça vous intéresse. Il disait hier, c'était publié dans la presse, j'ai grandi avec Jourdassin. Mes parents en écoutaient beaucoup quand j'étais petit. C'était mon artiste préféré. Il est tellement fort dans l'imaginaire collectif. Il s'est immiscé dans notre subconscient. Et quand Étienne Copé a découvert que la plupart des chansons de Jourdassin étaient en fait des traductions de tubes étrangers écrits en anglais, en italien ou en espagnol, bien l'idée de les chanter à son tour a ainsi pris son sens. Si vous voulez lire cette entrevue très intéressante de José Lapointe, c'est dans la presse plus d'hier. Et devant moi, il y a François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, Monsieur Larochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Aujourd'hui, donc, on parle de Trump, son désir pour le Groenland et son Conseil de la paix. Donc, au sommet économique de Davos en Suisse, la semaine dernière, on a pu assister à, disons, une autre exhibition du président Trump autour du Groenland et de son Conseil de la paix. Il a cependant semblé reculer sur ses visées de propriétaire groenlandais.
Oui, en effet, lors de son passage à cette rencontre annuelle des grands de ce monde, si on peut dire, Trump a amorcé un revirement au sujet du Groenland. Comme on le sait, il avait depuis des semaines exprimé son intention de prendre le contrôle de l'île arctique de gré ou de force. Il avait aussi menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations américaines en provenance de 8 pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui avaient envoyé au Groenland quelques dizaines de soldats pour afficher leur solidarité avec le Danemark. À Davos, face à l'opposition suscitée par son projet impérialiste, Trump a annoncé, dans un discours d'ailleurs totalement décousu, que son pays n'emploierait pas la force pour prendre le Groenland. Puis, après une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, il s'est montré plus conciliant. Trump a déclaré qu'il avait obtenu un accès total et permanent au Groenland dans un éventuel accord cadre qui impliquerait l'OTAN. Il a affirmé aussi que l'accord inclurait les droits miniers et son projet de bouclier antimissile qu'il a baptisé modestement de Dôme d'or.
Ouais.
Mark Rutte, de son côté, le secrétaire général de l'OTAN, a confirmé que son organisation allait renforcer sa présence dans l'Arctique. Mais il a démenti que les ressources minérales de l'île ou la question de sa souveraineté avaient été abordées avec Trump. On peut facilement imaginer lequel des deux disait la vérité.
Oui. Mais pourquoi Donald Trump veut-il autant le Groenland? Pourquoi il y tient tant?
Bon, d'abord, il dit que c'est une nécessité de sécurité nationale pour les États-Unis et même le monde. Mais les raisons qu'il mentionne changent tout le temps. Pour lui, seuls les États-Unis sont assez puissants pour protéger l'île contre les menaces exagérées, d'ailleurs, que la Russie et la Chine feraient peser sur le Groenland. Il veut aussi être propriétaire des richesses en minéraux rares qui s'y trouveraient. Mais franchement, on peut se demander si c'est parce qu'il n'a pas reçu le prix Nobel, comme il l'a exprimé dans un échange de messages avec le premier ministre norvégien. En fait, qui sait ce qui se passe dans ce cerveau agité Trump?
Qui sait, en effet? Au Danemark, comme au Groenland, la prudence reste de mise.
En réalité, parce qu'on ne connaît pas trop ce que le cadre d'un arrangement comporte, mais en tous les cas, Trump a indiqué qu'il n'allait pas imposer pour l'instant ses droits de douane supplémentaires sur les pays européens impliqués au Groenland. On dit que le Danemark pourrait céder des parcelles du territoire aux États-Unis pour qu'ils y établissent de nouvelles bases militaires sous souveraineté américaine. Mais ces éventuels transferts de souveraineté devraient être acceptés par les Danois et les Groenlandais. Ils seraient, dit-on, prêts à négocier sur tous les aspects politiques, sécuritaires, investissements et économiques, mais pas du tout, ils sont pas du tout prêts à négocier la souveraineté du territoire.
À Davos, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a lui aussi prononcé un discours qualifié d'historique.
Oui, en effet, son discours n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a vraiment eu une résonance internationale. En disant qu'on vivait un moment de rupture et non de transition et que les puissances moyennes devaient s'unir face à l'hégémonie américaine, Carney a marqué un changement de ton très clair avec les États-Unis. Trump l'a d'ailleurs pris personnel, comme on dit, car il lui a retiré son invitation pour joindre son fameux Conseil de la paix, puis il a menacé de nous imposer des tarifs de 100% si on faisait un accord commercial avec la Chine.
Je pense pas que Carney a pleuré quand il a annoncé qu'il n'était pas invité.
Non, ça l'a sûrement soulagé.
Ouais. Trump, à Davos, a aussi présenté son Conseil de la paix.
Oui, il a fait cette annonce jeudi dernier avec derrière lui quelques 18 dirigeants internationaux qui ont accepté son invitation sur la soixantaine de pays sollicités. En fait, ce conseil ressemble plutôt à un club de dictateurs. Y figurent des trumpistes de la première heure comme le président argentin Javier Milei et le premier ministre hongrois Viktor Orban, l'un des rares Européens présents. Avec son homologue bulgare et la présidente du Kosovo. On se demandait ce que ces deux-là faisaient là, mais en tout cas, de nombreux pays arabes comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar et d'autres étaient représentés, tout comme la Turquie. Le premier ministre du Pakistan était là, ainsi que le président indonésien. De ce groupe réduit, boudé par les démocraties occidentales, manquait le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, qui aura accepté l'invitation, mais n'a pas fait le voyage. Probablement qu'il avait peur d'être arrêté. Poutine a été invité aussi.
Excusez, je ris, mais c'est pas drôle.
Netanyahou a annoncé de même sa participation. Deux personnages poursuivis pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale.
Belle brochette.
Toute une sélection, effectivement, pour un Conseil de la paix. D'ailleurs, ce conseil, qui avait été originalement proposé pour superviser le plan Trump pour Gaza, c'est maintenant doté d'un mandat pour maintenir la paix mondiale, rien de moins. C'est Trump, d'ailleurs, qui contrôle tout, comme si c'était un club de golf.
Ouais.
Il en est le président à vie. C'est lui qui décide qui peut en être membre, qui va décider de l'agenda et aussi qui peut être expulsé du club. En plus, pour devenir membre permanent, il faut payer $1 milliard.
Ça coûte cher pour jouer au golf.
Mais ces gens-là semblent avoir les moyens de le payer. Une structure qui servira à la glorification personnelle du Galigula contemporain.
Oui, Trump est devenu un vrai danger pour la stabilité internationale.
C'est sûr. On a affaire, for sure, comme dit le président Macron.
Oui, avec ses lunettes bleues.
Oui. On a affaire à un Trump complètement hors de contrôle sur la scène internationale. Et à son âge et probablement à son dernier mandat, il n'a rien à perdre. Il s'est entouré de gens sans scrupules qui font ce qu'il leur demande sans se poser de questions. Il se croit donc libre de faire ce qu'il veut et venant d'un chef d'État caractériel qui clairement a des problèmes d'ego, ce n'est pas rassurant.
Non. Et les Américains, eux, semblent aux abonnés absents dans leur majorité.
On rêve que les élections de mi-mandat au Congrès américain vont mettre un terme à cette folie, mais le résultat pourrait nous surprendre et de toute façon, Trump en aura encore pour 2 ans au pouvoir. Lui et ses conseillers semblent s'être donnés pour mission de démanteler ce qui permettait à la planète de fonctionner relativement bien et d'améliorer le sort de ses habitants sous prétexte que cela desservait l'Amérique, ce qui est bien sûr complètement faux. Le pire dans tout ça, c'est que les Américains ont élu Trump. Ils nous font tous payer leurs choix égoïstes et mal avisés en bouleversant la planète et en créant une atmosphère anxiogène chez beaucoup de gens. Mais on voit avec le discours de Carney, puis la réaction unie des dirigeants européens pour défendre le Groenland, ainsi que la résistance des citoyens de Minneapolis, que Trump peut reculer. Et donc, il faut poursuivre sur cette voie.
Oui,
il
doit reculer, puis nous, avancer sur cette voie.
Voilà.
Merci beaucoup, M. La Rochelle.
C'est moi qui vous remercie.
À la prochaine.
Au revoir.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout, s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Donne-moi ton cœur, une chanson de Louane.
Oui, très belle chanson, Louane, qu'on découvrait dans l'excellent film La famille Bélier, il y a quand même quelques années. Marie-Ève Cousineau écrit que des proches aidants québécois pourront désormais être rémunérés pour le travail qu'ils effectuent auprès de leurs conjoints, leurs parents ou leurs enfants malades ou en perte d'autonomie. C'est l'une des mesures phares de la nouvelle politique nationale de soutien à domicile lancée aujourd'hui par Québec. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, responsable des services sociaux des aînés et des proches aidants, présente la politique « Mieux chez soi » aujourd'hui à Montréal, en compagnie de son adjointe parlementaire pour les services sociaux, Shirley Dorismont. Le gouvernement annonce qu'il modernisera l'allocation « Autonomie à domicile », anciennement « Chèque emploi service ». Les proches aidants pourront être rémunérés selon certains critères, au même titre que les travailleurs d'aide à domicile. Les proches aidants, dans certaines situations et après évaluation, pourront être reconnus comme prestataires de services à l'allocation d'autonomie à domicile, a indiqué la ministre Sonia Bélanger. C'est une avancée importante, c'est un changement majeur. Québec dit bonifier le budget dédié à cette allocation de 1,1 million de dollars dès maintenant. Un financement supplémentaire de 22,2 millions de dollars est prévu l'an prochain. Cette mesure répond à une demande répétée des proches aidants. En septembre, une pétition comptant plus de 7 100 signatures a été déposée à cet effet à l'Assemblée nationale. Les signataires y font valoir que leur travail permet de désengorger les milieux d'hébergement et de faire économiser des millions à l'État. La politique prévoit aussi une augmentation de la rémunération des travailleuses de l'aide à domicile. Nous augmentons le salaire horaire offert de 20 à 21 $ l'heure, précise Sonia Bélanger. Le gouvernement bonifie son financement afin qu'il atteigne 2,4 millions immédiatement et 15,7 millions de façon récurrente par la suite. Au Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront près du quart de la population en 2031, selon des projections de l'Institut de la statistique du Québec. Les traumatismes crânio-cérébraux, TCC, et leurs conséquences sur les personnes atteintes demeurent encore méconnues aujourd'hui, mais grâce au jumelage de l'art et la science, ça pourrait changer. C'est à tout le moins le souhait d'Espace K Théâtre du laboratoire Neurotrauma de l'Université du Québec à Montréal, spécialisé dans l'étude des effets des TCC, et de l'Association des handicapés adultes de la Côte-Nord, partenaire de l'exposition interdisciplinaire « Exprime ta réalité ». Unique au Québec, l'exposition est présentée à la bibliothèque Alice Lane de Baie-Comeau jusqu'au 9 mars. Elle se veut un moyen de sensibiliser la population à la réalité des personnes atteintes d'un traumatisme crânio-cérébraux et modéré et sévère. Exprime ta réalité est une initiative de deux chercheuses, l'une en art vivant et directrice de production chez Espace K Théâtre, Josée Girard, et l'autre, en neuropsychologie et professeure au département de psychologie de l'UQAM, Dr Marie-Julie Potvin. Les deux femmes partagent un autre lien. Elles sont mère et fille. Pour mener à bien leur projet, les deux protagonistes ont obtenu la contribution de quatre artistes de Baie-Comeau œuvrant dans autant de disciplines. Il s'agit de François Corriveau en sculpture, Fanny Lessard en art visuel et Jean-Claude Rochette en installation visuelle. Josée Girard, elle-même, complète le quatuor avec sa poésie. Exprime ta réalité demeure une exposition qui unit l'art et la science pour raconter la force humaine des personnes vivant avec un TCC, à voir donc jusqu'au 9 mars. C'est là-dessus que je vous dis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Mathieu Tessier en régie. Et puis, on se retrouve mardi. Merci à Denis Martin Chabot, mon fidèle allié, qui sera avec vous dès lundi. Bon week-end!